Je suis présentement au Centre des sciences de Montréal et ce que vous entendez là, c'est la machine Turlutte. Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on tourne autour de machine.
Bonjour, mon nom est Mouna Andraos. Je suis cofondatrice de studio de design Daily tous les jours. Alors, la machine à Turlutte était une commande par l'Usiofilm qui développait un projet sur les enfants de la Bolduc, qui faisait en fait un hommage à la Bolduc, première chansonnière du Québec, pour un petit peu célébrer son héritage, puis essayer d'explorer où est-ce qu'on était rendu avec la Bolduc aujourd'hui, sa place dans la culture et ce qu'elle a laissé. Donc, ils nous ont invités à faire une machine qui représentait un peu le personnage qui, à l'époque, faisait des tournées tout autour du Québec en disant « Essayons de prendre ce projet des enfants de la Bolduc et de l'amener directement au travers du Québec à un public contemporain. »
Parce que, soulignons, le projet « Les enfants de la Bolduc », c'est d'abord un album?
Ça a été plusieurs choses, en fait. Ça a été un album. C'est d'abord, en fait, un web documentaire avec 8 artistes, je pense, qui ont été invités à venir se réapproprier le répertoire musical et réinventer des chansons à savoir aujourd'hui.
Pourquoi des chansons perdurent puis d'autres non?
Le phénomène social, c'est un peu une icône féministe.
Ah, c'est la contre-culture aussi.
C'est comme une rebel à l'époque. C'est traditionnel, mais à leur temps, c'était pas traditionnel. C'était vraiment comme cutting edge. Ah, c'est une punk.
Ah, c'est une punk, pas long, là.
Il faisait tout allemand, là. C'était comme do it yourself.
Alors, dès le début, ils nous ont invités à réfléchir à cette idée de Turlutte d'abord et l'idée de la machine itinérante est née vraiment avec le projet des enfants de la Bolduc. Donc, l'invitation, c'est d'essayer d'utiliser la Turlutte comme un moyen pour transmettre la bonne humeur, la gaieté, la joie de vivre de la Bolduc. Et au début, l'idée initiale, c'était de faire turluter les gens, de leur demander d'essayer de chanter comme la Bolduc. Et puis le travail qu'on a fait en découvrant cet univers musical-là a été de réaliser que c'était assez compliqué de chanter comme la Bolduc, de faire de la turlute. Donc la machine est devenue finalement une machine qui permettait de jouer de la turlute au lieu de chanter de la turlute.
Et comment est-ce que vous avez fait ça au début? Vous demandiez clairement aux gens de turluter?
Mais en fait, avant de pouvoir faire ça, on s'est dit on va apprendre nous-mêmes, on va essayer nous-mêmes. On a travaillé avec une spécialiste de la turlute qui était à l'époque elle-même en tournée, qui nous a fait par Skype des cours où on suivait tranquillement. Alors la façon qu'elle construisait ça, c'était au début tu fais un premier son, un la, le, li, puis après tu rajoutes des sons entre, puis tranquillement tu complexifies ton chant. On a réalisé effectivement que c'était assez complexe, mais on a commencé à comprendre comment ça se découpait, puis comment on pouvait expliquer et communiquer ça aux gens. Et l'autre chose qu'on s'est amusé à faire, c'est d'écrire les turlutes. En fait, pour les apprendre, il fallait c'était la façon la plus naturelle pour nous, c'était de les écrire, comme ça ne vient pas spontanément pour nous.
Donc, les inventer, clairement.
Ou retranscrire des turlutes, ce qui n'est pas fait à la base. Mais en le faisant, on a réalisé quelque chose de très ludique et le fun de lire des turlutitus et de travailler à partir de là. Donc, tranquillement, on s'est dit, mais essayons d'inviter les gens à lire, à déchiffrer, puis à reconstruire des turlutes chantées par les artistes des enfants de la Bolduc au lieu d'essayer eux-mêmes de chanter.
Donc physiquement, ça a l'air de quoi?
Physiquement, ça ressemble à une mini caravane qui a des petits trous prêts à partir. Et sur les côtés, on a des disques qui rappellent évidemment le geste de jouer des vieux disques. Chaque groupe de 3 disques sont des voix de turlute d'un des artistes contemporains des Enfants de la Bolduc. On a Ariane Moffat.
Et
On a Christa Muir. On a So Called. Et Random Recipe, je pense qu'ils sont sur la machine.
C'est quoi la réaction des gens face à la machine?
Ce matin, je demandais à quelqu'un qui était au Centre des sciences où la machine est exposée en ce moment après avoir fait 2 étés de tournée, qui nous disait que vraiment les enfants sont attirés automatiquement. Ils sentent le jeu, puis ils ont envie de s'amuser, d'explorer, de créer du son. Les plus grands, certains d'entre eux vont y aller de façon un peu plus rationnelle, essayer de découper, de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Les gens un peu plus musiciens le regardent comme un instrument, puis composent à partir de ça. Donc, c'est toutes sortes de publics qui embarquent, mais en général, c'est au moins un sourire, puis un petit peu de la bonne humeur qui vient de ce genre de chanson.
Justement, tu as travaillé avec des musiciens quand même pour faire ça, c'est-à-dire à partir de leur musique, de leur voix. Quel commentaire est-ce que tu as de la part des musiciens? Ça doit être particulier pour eux? Est-ce qu'ils ont joué avec?
Ils ont joué avec un petit peu. En fait, dans le cadre du projet des enfants de la Turlutte, il y a... Non, pardon. Dans le cadre du projet des enfants de la Bolduc, il y a également évidemment un site web qui s'est développé. Et puis... Yako et toute l'équipe autour de Luzio, Acufen, une équipe de web qui s'est organisée, qui a développé une version de la machine à Turlutte virtuelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pu jouer avec les mêmes sons, puis le même type d'interface aussi en ligne. Donc, les musiciens ont pu l'explorer soit en vrai, soit sur Internet. Je pense que pour eux, c'est le côté ludique et surprenant. Ça a été un exercice vraiment difficile d'enregistrer et de les faire enregistrer les sons.
Pourquoi?
Qui sont recréés après coup. Quand tu as l'habitude de chanter et de composer, c'est la liberté. Tu fais toutes les... Comment dire? Il y a une cohérence dans la façon que tu chantes. Pour pouvoir donner cet outil au public, on avait besoin de le découper en très petits morceaux, puis de les faire chanter chaque syllabe individuellement, puis les faire travailler un peu de façon moins naturelle.
Donc, vous êtes allé en tournée,
ouais,
avec cette machine à Turlutte.
Ouais.
Où êtes-vous allé?
Alors, on a fait plusieurs festivals un petit peu partout au Québec, des festivals de musique. Par exemple, Festival de Rive du Monde, Chicoutimi, Musique du Bout du Monde à Gaspé, on est à Percé, à Québec, Rouyn-Noranda, à Montréal évidemment aussi. Plus récemment, Festival de l'Orchestre Symphonique de Québec. Mmh. Puis toutes sortes de différentes découvertes avec des publics variés.
Justement, public varié. Est-ce qu'il y a des publics qui sont... Est-ce que c'est vraiment très différent d'une place à l'autre?
À partir du moment où tu es dans un festival de musique, tu vas avoir des gens qui sont intéressés à jouer puis à découvrir. Mais la machine était tout le temps dans des espaces publics et une invitation à tout le monde pour rentrer et jouer. Mm-hmm.
Festival Juste pour rire, juillet 2011.
J'aimais la musique quand je faisais tourner.
J'adore ça, c'est vraiment cool. Eric Floyd, you're the conductor. You make us sing.
Yeah, funny. It gets a little noisy at times, but then it's funny.
Je connaissais rien à cet univers musical-là. Et comme beaucoup de nos projets, à chaque fois, on embarque, on découvre, on explore, puis c'est le fun pour ça.
Non, nous ne sommes pas vendredi matin, vous écoutez bien dans le champ lexical et non francophile. Cette pièce, Flasher Cantine, est tirée de l'album Beauté mécanique de la formation Plywood 3 quarts. Laissons justement Philippe Papineau, animateur CIBélien et aussi journaliste au Devoir, nous présenter l'album.
Oui, un disque important. Je regardais d'ailleurs, ça date de 2004, donc on recule un peu dans le temps. Mais c'est un album concept qui est pas fréquent dans la musique d'ici. Quand même, ça arrive pas souvent que ça soit réussi aussi, que ça soit pas trop appuyé. Je dirais que c'est un genre de des premiers groupes qui a vraiment pris « OK, on va prendre le son de Tom Waits ». Très brinque-ballant, très objet, qui fait des bruits, des chaînes, mélangé avec le folk québécois, le folk québécois, et avec une histoire quand même assez le fun, où d'un gars qui, ça va pas bien en amour, il trompe sa femme, dans le fond, en créant une beauté mécanique, donc fait de bois de merisier, puis avec du métal, pour qu'il se crée donc son amour virtuel, ou en tout cas, ou presque. Et donc, c'est toute une histoire. Et aussi, c'est que c'est pas si didactique. On nous prend pas par la main à travers une histoire de 15 chansons. Il n'y a pas beaucoup de chansons où il parle. C'est beaucoup de musique, beaucoup d'accompagnement, d'instrumental. Alors, ça nous crée plus un univers musical mécanique, justement, qu'une histoire tissée, un peu lourde, peut-être. Donc, c'est un super bon disque.
Danny Placard, leader de la formation Plywood 3 quarts.
Bien, en fait, c'est ça, ça partait de la machine. On avait un peu une genre de fixation sur les mécanismes, là, Plywood 3 quarts, dont il y avait Éric Jarry puis Éric Villeneuve qui travaillaient dans la fibre optique. Fait que c'était des gros tripes de technique. Fait qu'on se retrouvait chaque dimanche dans un atelier, puis à gosser là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai comme eu le flash, tu sais, on voulait faire un album concept, puis il y avait un film dont je me rappelle plus le titre quand on était jeunes, c'était deux flots qui se construisaient une femme idéale, genre. Puis l'idée est comme venue de là, tu sais, un peu Frankenstein, question de se construire une machine, fait que c'est ça. Puis on avait notre machine aussi, là, l'espèce de grosse machine qui faisait un beat, là, mais qui était comme gigantesque, là, qui marchait avec des moteurs, puis tout ça. Fait que c'était une grosse fixation sur la machine. En fait. C'était tellement gros, on l'a utilisé juste deux fois parce que ça prenait trop de place. Mais puis on avait plein d'autres patentes qui marchaient avec des moteurs, puis des affaires comme ça.
Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était reproduisable en concert?
Oui, tout marchait bien, sauf la machine. On a arrêté de la traîner, c'était trop gros. Mais moi, j'ai gardé certaines patentes, eux autres qui ont gardé certains trucs. Fait que tout était éparpillé d'un bord puis de l'autre, là, mais on a encore toutes nos machines à faire du bruit. Là.
Thank you.
Un mot ta surprise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tombé en amour avec une machine. Je suis tombé en amour avec une machine.
Son épiderme sera fait de cet alliage.
Du titane laminé avec du Kevlar.
Allez-y, serrez-lui la main.
Ouais. Quelle force! Il a une sacrée poigne.
200 kilos de pression. Il peut réduire en purée chacun de vos cinq doigts.
Greffez ce bras sur son épaule.
C'est génial.
Tu seras le plus impitoyable des flics.
Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine. Les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes. Un ordinateur incorporé, programmé à vie avec les données du maintien de l'ordre en milieu urbain. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop.
En 1987 est sorti le film Robocop, dans lequel un hybride homme et machine devient le policier ultime. En effet, il est super bon pour tirer du fusil. Mais il marche lentement. Puis il tourne la tête lentement. Pas sûr que c'est si efficace que ça.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Quelles sont vos directives prioritaires?
Être au service des citoyens, protéger les innocents, faire respecter la loi.
Il est terrible, ce gars.
Ce gars-là, c'est une machine.
Ils ne vont pas nous remplacer par des machines.
En 2012, on n'a toujours pas de policiers robots dans nos rues. Mais en attendant, il y a un remake de Robocop qui est en train de se tourner.
Julien Robert, compositeur.
Maxime Goulet, compositeur.
La machine, qu'est-ce qu'a fait la machine dans ce spectacle-là?
Elle fait des traitements sur la partie qui est jouée par le percussionniste. Donc le percussionniste joue des sons et la machine enregistre ces sons-là, les transforme, les répète.
Elle sert d'accompagnement à l'humain. Oui, une interaction, je dirais, dans les deux sens.
Dans les deux sens, ouais. Bidirectionnelle.
Ouais.
Samedi soir dernier, lors d'un concert à la Maison de la Culture Rosemont, on a joué la pièce « La Voie lactée était d'une piste cyclable » qui est une composition de Maxime Goulet et Julien Robert, les deux gars qu'on a entendus juste avant moi.
Pendant que Julien Robert est installé au laptop et qui tourne des boutons pour manipuler et mettre en boucle les sons de la pièce, le percussionniste Julien Compagne, lui, est assis sur un vélo stationnaire. Tout au long de la pièce, il frappe sur le vélo, il frappe sur le banc du vélo, il joue avec des sonnettes, il place une carte à jouer dans les rayons de la roue comme quand on était petit et on voulait faire semblant qu'on avait une moto, il pèse sur des klaxons et là, les sons s'accumulent, se transforment, reviennent, repartent et vraiment, la machine joue de la musique avec la machine.
Oui, il y a une partition de l'électronique de la machine, mais il reste quand même que la machine peut prendre certaines décisions parfois et le musicien doit s'adapter à ces décisions-là.
Comme c'est la machine, la personne derrière la machine peut prendre des décisions.
La machine aussi peut prendre des décisions par elle-même. Il y a des facteurs aléatoires dans le programme qui fait qu'il y a une imprévisibilité dans le concert qui est inhérent là, à la performance live. Là. Donc, c'est ça qui rend la performance pertinente, c'est que la machine ne sera pas tout le temps, ne fera pas tout le temps la même chose. Mais c'est sûr qu'on a une très bonne idée de ce qu'elle va faire environ, mais il y a quand même des barèmes à l'intérieur desquels la machine peut interpréter.
Un piano ne peut pas planter en plein milieu d'un concert. Commencez-vous le concert avec l'angoisse de voir un blue screen apparaître soudainement en plein milieu de nulle part?
Il y a toujours un risque, ça c'est sûr. On essaie de limiter au maximum, mais il y a toujours un risque. Mais c'est pour ça qu'on aime ça.
Vous pourrez entendre La Voie lactée est-elle une piste cyclable ainsi que des pièces de Steve Reich et d'autres compositions de Julien Robert le 22 mars à la Maison de la Culture Hansik Cartierville.
J'avais entendu comme un compositeur qui disait que les jeunes compositeurs d'aujourd'hui qui font de la musique instrumentale, ils ne jouent plus de piano puis ils composent toujours à l'ordinateur puis que ça s'entend dans leur œuvre qu'ils composent à partir d'un ordinateur. Mais on pourrait dire à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que les compositeurs d'avant qui composaient au piano, ça s'entendait qu'ils composaient au piano? T'sais, on pourrait poser la question inversement. Puis je pense que dans le fond, c'est juste une espèce d'évolution naturelle puis qui a fait en sorte que les compositeurs ils ont dit hey, « ouais, avec l'ordinateur, je peux entendre les 80 instruments qui jouent vraiment ensemble puis je ne suis pas limité à ce que mes 10 doigts peuvent faire au piano. » De façon naturelle, ils sont allés vers ça, puis ça leur a amené des possibilités qui étaient de faire une nouvelle musique qu'on ne pouvait pas faire lorsqu'elle était juste jouée au piano. Fait que je pense qu'il y a, je veux dire, il y a aucun, il y a personne qui a dit non à la hache de fer, que quand il y avait sa hache de pierre, il a dit hey, ça fonctionne bien mieux, je vais utiliser ça. Fait que ça n'enlève rien au pianiste, mais je pense que comme compositeur, l'idée c'est juste de trouver c'est quoi le meilleur outil qui va me permettre de faire la musique que j'ai envie de faire.
But thanks to technology, and we don't need anymore a working class. We can replace progressively the working class by machine robots, computers, nanotechnology, and certainly nobody has to work. Every human being should have the right.
Sur le site web paradisme.org, Raël explique en anglais le projet du paradisme.
Social service forever, healthcare forever.
Personnellement, j'ai découvert le paradisme cet été dans une manifestation étudiante. Un homme m'a remis une carte qui expliquait comment les robots devraient un jour travailler à notre place pour nous assurer un paradis sur Terre. En bonne paresseuse, j'ai été intriguée, mais j'étais quand même extrêmement sceptique. En creusant un peu le sujet, je me suis vite rendu compte que le projet du paradisme émanait des Raéliens. La machine serait-elle l'avenir de l'homme? Les Raéliens, en tout cas, le croient. Et nous, on a voulu en savoir plus.
Je suis Michel Chabot du mouvement Raélien, responsable ici des organisations des activités dans le Grand Montréal.
En quoi consiste le paradisme, en fait?
Ben, écoute, c'est une bonne question. Au départ, on peut dire que le paradisme, c'est un système politique qui ressemble au système communiste, mais sans prolétariat, exempt de toute forme de prolétariat. C'est-à-dire où la main-d'œuvre est faite par des robots, par les machines, et l'être humain en tant que tel profite de la vie au niveau d'être sans travail et tout ça. Donc, le paradisme, c'est un système politique, comme je le dis là, qui est exempt de tout prolétariat. Ce qu'on constate actuellement, c'est que le capitalisme ne fonctionne plus. Et le communisme, comme tel, n'a jamais vraiment bien fonctionné dans la mesure où l'être humain était au service était un peu était obligé de travailler quoi pour un noyau principal. Actuellement, le communisme, sans ce prolétariat-là, justement, pourrait exister, et c'est ça le paradis. C'est-à-dire, il pourrait exister où on met toute l'énergie, les robots, l'automatisation, tout ça, toutes les découvertes de la science, la technologie, de la nanotechnologie, on la met au service de l'être humain et non pas au service des multinationales. Parce qu'actuellement, on est de plus en plus conscient que l'automatisation, que le robot, que les machines prennent de plus en plus de place, remplacent l'être humain de plus en plus. On le voit dans les automobiles, on le voit dans le domaine de l'agriculture, on le voit dans le domaine même de la médecine, où il y a des robots qui font des opérations maintenant encore beaucoup plus précises que les humains. Et par contre, souvent, actuellement, ce qu'on constate, c'est que la richesse. Et ceux qui profitent de cette réalité-là, c'est beaucoup plus ceux qui s'en enrichissent, et l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit.
Selon les Raéliens, dans un monde paradisiste, l'argent n'existerait plus. Enfin libérés des contraintes du travail, les humains pourraient s'épanouir dans l'harmonie, sur un pied d'égalité. Pour survivre, il leur suffirait d'exprimer leurs besoins à des robots et des machines qui leur seraient totalement dévoués. Les robots s'occuperaient donc de tout, on leur demanderait ce qu'on veut. J'ai lu sur le site web, ils seraient ceux qui font les récoltes, qui distribuent la nourriture, c'est ça?
Absolument. Le robot, dans un avenir pas si loin que ça, pourrait tout faire et l'être humain, lui, ne travaillerait plus. Ce serait de la coopération, la réelle coopération, la réelle entraide. Il y aurait encore des êtres humains qui feraient de la recherche en sciences, mais il y aurait plus, dans un avenir que j'espère voir de mon vivant, il y aura plus d'argent où l'être humain, justement, on implante le paradis et l'être humain continue de faire des recherches. L'éducation est gratis. L'être humain, l'artiste va s'épanouir dans son art. Le scientifique va s'épanouir dans sa science. Il va mettre ses découvertes au service de l'être humain, au service de la population, et ça dans tous les domaines. Et les robots, de plus en plus perfectionnés, de plus en plus sophistiqués, feraient de plus en plus de tâches. Et on pourrait vraiment découvrir, vivre probablement ce qu'on n'a jamais connu, c'est-à-dire l'épanouissement réel d'un être humain.
Évidemment, c'est pas la réalité, mais on pense à Terminator où ça vire mal, tout ça, d'avoir des machines, des robots partout. Mais ça peut pas, je sais pas, ouais, se revirer contre nous.
Ouais, c'est sûr que moi je trouve que le côté méchant de l'être humain est beaucoup plus probable dans le monde qu'on est là, où il y a une quête d'une augmentation de son compte en banque avec un pouvoir et avec un intérêt d'être le pouvoir, d'avoir le pouvoir plutôt. Là, on parle plus de ça. Les machines sont conçues pour être au service de l'humain. On passerait des étapes importantes avant de se rendre là. Les étapes seraient que on aurait les valeurs fondamentales qui sont celles de la coopération. Les ordinateurs qui sont de plus en plus, je dirais, perfectionnés, de plus en plus intelligents, seront programmés pour être à notre service et non pas pour nous détruire.
Mmh. Et ces robots, comment est-ce qu'on fait pour les rendre, pour les amener au service des humains? Comment ça commence le paradisme? Comment ça peut se produire?
C'est une bonne question. En fait, les réponses ne sont pas évidentes. J'ai l'impression que une des étapes à venir sera un gouvernement mondial. Okay. Avec des États indépendants, ça, je pense que ça va toujours devoir être, parce que les cultures devront être conservées, un gouvernement mondial avec la définition de gouvernement qui est un peu différente de celle que l'on vit, c'est-à-dire un gouvernement actuellement, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a un pouvoir, alors que dans un monde, dans l'étape qui s'en vient, moi je crois que c'est quelque chose qu'on va voir, c'est-à-dire un gouvernement mondial où par définition ce n'est pas le pouvoir, mais c'est une administration mondiale, et que éventuellement l'argent disparaîtra.
L'utopie est-elle la vérité de demain, comme le disait Victor Hugo? En tout cas, avant de pouvoir envisager cette société supposément parfaite où les robots se taperont tout le boulot, l'humanité aura sans doute eu le temps de vivre quelques fins du monde maya.
Un jour, vous voyez une machine qui vous dit comment vous allez mourir. Est-ce que vous iriez voir? Comment est-ce que vous vivriez votre vie différemment si vous le sachiez? Mais c'est la prémisse derrière le recueil de nouvelles Machine of Death qui a été publié en 2010 aux États-Unis par un collectif. Donc, c'est trois personnes qui travaillent dans le milieu du webcomic. Donc, David Malky, Ryan North et Matthew Benardo. Donc, Ryan North a un webcomic qui s'intitule Dinosaur Comics où il met en scène justement quelqu'un qui propose cette prémisse-là. Et plusieurs gens ont répondu à l'appel en présentant eux-mêmes des nouvelles, des short stories qui partent de cette prémisse-là et qui en font une histoire complète. Ils ont reçu 700 soumissions de nouvelles, ils les ont éditées et ils les ont présentées dans un livre. Donc, qui s'intitule Machine of Death. Il y en a 31, en fait, qui ont été publiés finalement. Ça va vraiment de toute la gamme possible, donc de vieillesse, cancer, à légumes, à bouillie, à toutes sortes de choses. Et on se rend compte assez rapidement que la machine en question, même si elle a toujours raison, n'est pas toujours nécessairement très clair, si on veut. Ça peut être parfois ironique. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on va mourir de vieillesse, c'est peut-être parce que un homme âgé va faire une crise cardiaque en conduisant sa voiture et à 23 ans, on va se faire frapper en traversant la rue. Donc, c'est pas nécessairement une mort de vieillesse traditionnelle. Mais voilà, c'est donc les twists que permettent la machine de la mort. Ce qui est intéressant, justement, de ce livre-là, c'est que non seulement il a été fait en crowdsourcing, donc en demandant à tout le monde sur Internet de sortir leurs idées et de les envoyer, donc ce qui a permis de prendre les meilleures voix dans des auteurs qui sont peu ou pas connus. Et ensuite, toutes ces histoires-là ont été aussi illustrées par des gens qui sont dans le milieu du webcomic ou dans le milieu de l'illustration. Assez underground, si on veut, ou relativement peu connu aux États-Unis, mais c'est aussi que le livre est publié de plusieurs manières différentes. Donc, il y a la version, si on veut, traditionnelle du livre qui se vend environ 18$ que vous allez sur Amazon ou ailleurs, mais vous pouvez aussi acheter une version qu'ils appellent jetable, donc une version plus cheap avec la reliure de moins bonne qualité, le papier moins fin aussi, pour 8$. Vous l'avez en e-book pour 6$ sur les plateformes bon, comme Amazon, Barnes & Noble, Kobo, etc. Et vous avez aussi la version gratuite sur leur site web. Vous pouvez télécharger le PDF du livre au complet. Et donc, si vous voulez découvrir ce qu'est Machine of Death sans dépenser un sou, c'est la manière la plus simple de le faire. Donc, ça vous permet à la fois de découvrir ces auteurs-là, de voir des nouvelles voies de la littérature américaine, et peut-être aussi, si vous ne lisez pas beaucoup en anglais, que vous voulez vous y mettre sans nécessairement plonger dans un roman au complet, ça peut être une manière intéressante de le faire, vu que ce sont tous de petites histoires. Il y en a une trentaine, donc, qui vont entre 10 et 30 pages. Donc, ça vous donne un bon panorama de ce qui peut se passer, et c'est la prémisse peut avoir l'air morbide comme ça, mais les histoires font vraiment toute la gamme des émotions, que ce soit de comique, tragique, bon, parfois morbide aussi, mais parfois carrément touchante. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande fortement d'aller jeter un œil là-dessus. Le volume 2 va sortir au début de l'année 2013, donc au début de l'année prochaine, et possiblement qu'il va y avoir un volume 3 plus tard. Ça, c'est pas encore convaincu, mais ça peut très bien arriver. Donc voilà, machineofdeath.net, tout dans un mot, donc machineofdeath.net. Vous allez pouvoir télécharger tout ça et découvrir 30 belles histoires qui portent tous sur la mort et sur une machine qui vous permet de savoir comment ça va arriver. Robots need love too. They want to be loved by you. They want to be loved by you. They want to be loved by robots. Need love too. They want to be loved by you. They want to be loved by you. They want to be loved by robots.
C'est tout pour nous cette semaine. Durant la dernière heure, vous avez entendu Christiane Campagna qui est allée rencontrer Philippe Papineau et Danny Placard, Mathieu Charlebois qui nous a parlé de la musique assistée par la machine, Lisanne Roux-Leblanc et le paradisme, Éric Sanson qui nous a parlé du livre Machine of Death, et au tout début de l'émission, Joanie Larue s'entretenait avec l'artiste Mouna Andraos. Vous pouvez jouer avec la machine à turlute de son invention en ligne à lesenfantsdelabolduc.com. Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue, Mathieu Charlebois, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on va courir dans les champs pour tourner autour du mot « fleurs ».